Bonjour à tous, au micro Paul-Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une nouvelle émission sur Radio Shalom. Alors chers auditeurs, l'actualité est particulièrement riche en Israël et on a l'impression que l'histoire s'accélère un petit peu. D'abord, il y a eu cette magnifique nouvelle, c'est-à-dire la libération des 4 otages que Tsahal, les forces de défense d'Israël, ont récupéré lors d'une opération remarquable qui a été endeuillée par la mort d'un soldat. Mais ne cachons pas notre joie, 4 otages libérés dans ces conditions, c'est formidable. Et puis ensuite, quasiment en même temps, il y a eu le plan de négociation présenté par Joe Biden, le plan qui est destiné justement à libérer tous les autres otages, les 120 otages restants, et qui sont aux mains des terroristes du Hamas. Et ce plan, cette feuille de route en fait, pour récupérer les otages et pour amener un cessez-le-feu, pour l'instant, ça n'a pas été accepté ni par Israël, ni par le Hamas, mais il semblerait que ça avance. Enfin, dernière chose, et pas la moins importante, nous avons assisté dimanche au départ à la démission prévue de Benny Gantz, qui a quitté le cabinet de guerre accompagné de Gadi Eisenkot. Benny Gantz, c'est le leader de l'opposition, et il a expliqué qu'il partait, et là je le cite, car le premier ministre Benjamin Netanyahou nous empêche d'atteindre une véritable victoire. Résultat, l'union nationale est terminée. Question, ces événements successifs sont-ils le signe d'un nouveau tournant historique politique à l'occasion de la guerre du 7 octobre? Alors, nous allons le demander à Alain Rosenkier. Alain Rosenkier est sociologue, président des Amis de la Paix Maintenant. Il est également membre du comité exécutif, du bureau exécutif de l'organisation European J-Call, qui défend la solution deux peuples pour deux États. Bonjour Alain Rosenkier.
Bonjour aussi.
Voilà. Alors, bienvenue sur notre antenne. Alors, Alain Rosenkier, vous rentrez d'Israël. Est-ce que vous avez eu des contacts là-bas? Je crois pas mal de contacts, comme d'habitude. Est-ce que d'abord vous avez ressenti la joie des Israéliens à l'annonce de la libération des 4 otages détenus par le Hamas?
Alors effectivement, j'étais en Israël au moment où cette nouvelle a été connue. J'étais sur le peu de temps après, je prenais l'avion pour le retour. Et j'ai donc vécu ce mouvement de joie que les auditeurs ont pu voir sur différents écrans, puisqu'on a vu, beaucoup ont vu cette vidéo, cette scène où les sauveteurs de la plage de Tel Aviv annonçaient aux baigneurs cette libération et les cris de joie qui ont jailli de la foule. Ceci étant, j'ai éprouvé un peu le sentiment que l'on ressent parfois dans le passage brusque un petit peu de Yom HaZikaron et de la fête d'indépendance, c'est-à-dire ce passage dans un temps très, très limité, très restreint, de la tristesse à la joie, de la joie à la tristesse. Effectivement, cette libération est quelque chose de remarquable. Au moment où elle a été annoncée, on ne savait pas encore qu'il y avait une victime israélienne. On ne savait pas non plus quelle était l'ampleur des dégâts parmi la population civile palestinienne. Et là aussi, en tant que juif, c'est quelque chose auquel c'est une chose à laquelle on ne peut pas rester indifférent et étranger. Et puis ensuite, on a entendu un certain nombre de commentaires qui se sont servis de cet événement pour l'instrumentaliser. Instrumentalisation par Benjamin Netanyahou, qui s'est précipité auprès de ses otages libérés en hélicoptère pour être présent sur les photos. Lui qui n'avait pas pris la peine de se rendre auprès des familles, des parents des otages dont on avait annoncé la mort quelques jours plus tôt et qui refusaient ou de rencontrer les familles d'otages, là, étaient présents. Bon, on sait très bien qu'effectivement, la victoire appelle les vainqueurs et que pour la défaite, il n'y a plus personne pour assumer cette responsabilité. Mais c'est quand même indécent de la part de ce personnage.
Alors, concernant cette opération, est-ce qu'en Israël, on estime qu'il est possible de libérer les 120 otages par ce type d'opération ? Ce type d'opération qui est très particulière en opération commando. D'autant que, on peut dire que l'organisation terroriste du Hamas, elle a perdu l'essentiel de ses capacités de nuisance. Est-ce que vous pensez que vous, ou est-ce qu'on vous en avait peut-être parlé avec des spécialistes en Israël, est-ce que vous pensez qu'on peut libérer les otages encore vivants ? On ne sait pas trop combien il en reste. Je pense qu'on lui dit à peu près 80, 90.
Probablement moins, ouais. Malheureusement.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on peut les libérer de cette manière ?
Bon, ça a été...
Enfin, vous ou les spécialistes ?
Oui. Non, alors, dans les spécialistes, effectivement, je n'ai pas été informé personnellement de la situation.
Comment
j'ai
ça ?
J'ai suivi... Bah, oui, on ne m'a pas tout dit. J'ai suivi les commentaires d'un certain nombre de spécialistes. Je dirais que les commentaires les plus avisés soulignent quand même que la libération de ces otages a pris plusieurs semaines de préparation, qu'il y a eu 4 otages de libérés. En tout, la libération par Tsahal se monte à 7 otages qui ont été libérés. Il reste encore effectivement 120, dont des corps. Si au bout de 8 mois... d'opération, on est arrivé à libérer 7 otages et qu'il en reste 120 encore à libérer, il suffit de faire la division pour savoir combien de temps encore cette guerre va durer. Donc, la plupart des... Et par ailleurs, de l'autre côté, il ne faut pas perdre de vue et que... lors de l'accord de novembre 2023... cet accord a permis la libération de 105 otages.
105 otages.
Donc
oui.
Il faut mettre en rapport 105 otages libérés dans le cadre d'un accord politique et 7 otages libérés dans le cadre d'opérations militaires, sans compter ou en comptant malheureusement les otages qui ont été tués par les forces israéliennes lors d'une tentative de fuite de ces otages, otages qui n'ont pas été identifiés à temps. Et qui ont été donc tués par des soldats israéliens.
Oui,
donc,
c'était une erreur.
C'était une erreur.
Triste erreur.
Mais
terrible.
Bon, il n'en avait pas.
Bouleverser
voilà.
Les gens.
Donc, quand on met les choses en perspective, on voit bien que il est important, effectivement, même si une pression militaire est nécessaire, pour parvenir à la libération de ces otages, qui doit être un impératif absolu de la société israélienne. Sinon, les dommages seront absolument considérable. Il ne pourra pas y avoir de victoire si les otages ne rentrent pas à la maison. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'un accord politique, d'un accord diplomatique avec auquel le Hamas sera partie présente dans le cadre, effectivement, d'un accord plus large avec la participation des États de la région et des États-Unis, selon le principe qui a été... développé par Biden et qui vient d'être approuvé par l'ONU, qui a la majorité, 14 voix et une abstention, celle de la Russie, appelle les parties prenantes à mettre en application cette proposition américaine.
Alors, parlons-en de cette feuille de route défendue par le président Biden, qui l'a également présentée comme étant une initiative israélienne, si j'ai bien compris. Où en sommes-nous de ce plan Biden ? Est-ce qu'il est du côté du Hamas ? Est-ce que du côté d'Israël, il y a des avancées ? Je lisais ce matin que le Hamas avait dit que c'était positif, etc. Et tout, mais en fait, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et les opérations continuent dans la bande de Gaza, notamment à Rafah, où il y a eu 4 morts, 4 soldats de tués encore ce matin.
Tout à fait, 4 soldats tués et 5 autres blessés grièvement. Bon, comme vous le savez, Blinken est actuellement dans la région. C'est son 8e voyage dans la région et il va s'efforcer d'obtenir des avancées dans la mise en application de cette feuille de route. Effectivement, le Hamas a dit qu'il y avait des avancées positives. Netanyahou, qui dans un premier temps a laissé placer le doute, a fait un certain nombre de déclarations intempestives qui ne peuvent que compliquer la possibilité de progresser, en rappelant que l'objectif final est que rien ne cesserait avant l'éradication complète du Hamas, une déclaration qui n'était pas à propos d'une part et qui d'autre part ne repose sur rien, car on sait, et c'est déjà démontré maintenant, qu'il ne pourra pas y avoir éradication du Hamas en tant que tel, il pourra y avoir affaiblissement du Hamas, il pourra y avoir mise hors jeu du Hamas sur le plan politique, mais ça ne pourra se faire que dans le cadre d'un accord avec les puissances régionales et avec les États-Unis. Israël tout seul ne pourra pas obtenir cette mise à l'écart du Hamas. Et donc, pour obtenir cette mise à l'écart du Hamas, c'est-à-dire pour pouvoir aboutir à un résultat positif de cette guerre, il est nécessaire d'avancer dans le cadre de la réalisation de cet accord. Alors évidemment, la feuille de route n'est pas parfaite, il y a des points à préciser, mais c'est le principe même de la diplomatie et des négociations. On n'est pas d'accord dès le départ, mais il faut créer une dynamique. Et cette dynamique est d'autant plus essentielle que c'est la seule possibilité de ramener dans le jeu le Qatar, la Jordanie, l'Égypte et les États-Unis pour qu'il puisse jouer un rôle...
Et l'Arabie Saoudite,
bien entendu, pour qu'il puisse jouer un rôle à la fois dans la libération des otages, mais également dans la reconstruction de Gaza, dans la possibilité d'obtenir une accalmie, voire davantage sur le front nord, qui est sur le point d'exploser, et c'est également quelque chose de très important. Donc, il est nécessaire d'avancer sur cette base-là, qui n'est pas à prendre ou à laisser. Et donc Israël aurait eu tout intérêt à avoir une approche positive, ce qui aurait amélioré également son image, qui est particulièrement dégradée, comme vous le savez, sur le plan international, d'avoir une approche positive à l'égard de cette proposition, qui est reconnue internationalement, plutôt que de laisser le bourreau au Hamas et d'apparaître comme étant celui qui traîne les pieds et qui veut encore continuer les opérations militaires, encore tuer, j'ouvre les guillemets parce que ce n'est pas l'objectif, mais encore plus de civils palestiniens, avec des ministres qui font des déclarations intempestives sur la liquidation des Palestiniens, sur l'établissement de nouvelles colonies à Gaza, et ça crée une image et un contexte qui est absolument déplorable concernant Israël, qui n'avait pas besoin de cette erreur diplomatique nouvelle.
Alors, comment dirais-je, au point de vue intérieur en Israël, à l'articulation de l'international et de la vie politique interne israélienne, il y a la démission de Benny Gantz, hein, qui a quitté le cabinet de sécurité. Je voudrais savoir votre avis. C'est un peu étonnant que Benny Gantz, qu'il avait prévenu, s'il était engagé, et il explique très bien, un peu comme vous l'avez fait d'ailleurs, qu'il ne peut y avoir de solution que s'il y a un plan pour l'après-Gaza, c'est-à-dire reconstruction, qui dirige, qui administre, etc., etc. Et donc, il se plaignait qu'il n'y a pas de ces choses-là et que ça a des répercussions sur la stratégie militaire israélienne, que le moment les soldats tournent en rond. Donc, c'est quand même étonnant qu'il quitte quand même maintenant, parce qu'il y a ce plan Biden, il y a ces otages qu'il défendait au sein du cabinet. Il a toujours dit que la priorité, c'était la libération des otages. Est-ce que vous trouvez qu'il a eu raison de casser l'unité nationale et de partir maintenant?
Alors, il y a deux choses. On peut considérer que sur le plan du principe, il a eu raison. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il n'avait plus la possibilité, et déjà il avait cette impossibilité, elle existait déjà depuis un certain temps, d'impliquer sa marque sur le déroulement des opérations. Il était marginalisé, il servait davantage de feuilles de vigne qu'autre chose. On peut penser que cette démission aurait dû intervenir plus tôt, elle aurait eu le mérite de clarifier les choses. Maintenant, compte tenu effectivement de la temporalité actuelle, c'est-à-dire le plan Biden, les négociations qui vont y avoir autour, on peut s'interroger sur le moment, sur le timing qui a été choisi pour cette démission. Effectivement, il avait prévenu, il avait donné une date. Cette démission, il l'a décalée, l'annonce de 24 heures suite à l'annonce de la libération des otages. On peut se demander si effectivement, il n'aurait pas pu attendre encore quelques jours de voir comment les choses évoluaient et éventuellement de quitter le gouvernement, non pas quelques heures après ce soi-disant succès, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas un succès de la libération des quatre otages, et donc une démission qui passe un petit peu inaperçue. Et si déjà partir au moment où, effectivement, au cas où il y aurait eu une position de refus, de blocage du gouvernement israélien, s'agissant de cet accord, s'agissant de la libération des otages, et s'agissant d'une réflexion sur le jour d'après, qui, encore une fois, indispensable pour obtenir cet accord et ce soutien des pays de la région et de pouvoir reprendre les négociations avec l'Arabie saoudite pour une reconnaissance des accords et le soutien américain. Donc, voilà, un peu partagé, s'agissant essentiellement du moment, de la temporalité qui a été choisie pour cette démission.
Alors, pendant que vous étiez en Israël, il y avait des grandes manifestations qui se déroulaient. Des grandes, oui, importantes, oui, oui. importantes. Un mélange de familles, de représentants des familles des otages en colère hein, contre le gouvernement, et puis des Israéliens qui demandent les élections maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire en une minute, est-ce que ces manifestations, cette mobilisation risque d'aller en augmentant, surtout compte tenu de la décision qui a été prise à la Knesset pour prolonger l'exemption des ultra-orthodoxes de l'armée, ce qui est, à mon sens, je le dis, mais tant pis, c'est pas mon rôle, mais ce qui est dégoûtant. Voilà. Et est-ce que vous pensez que ça va accélérer cette demande de élection maintenant?
Cette demande, elle est forte et elle va continuer à se renforcer. S'agissant des manifestations des familles, évidemment, elles font se poursuivre, car s'il y a une grande joie à l'annonce de la libération des quatre otages, il y a également une grande anxiété concernant le devenir, le sort des otages qui restent prisonniers du Hamas. On sait que leur situation ne va sûrement pas s'améliorer après ce coup d'éclat de l'armée israélienne. Et donc, il y a une volonté, il va y avoir une accélération de la pression des familles après le 16 juin pour qu'effectivement tout soit fait le plus rapidement possible. C'était déjà très urgent avant et ça l'est encore plus maintenant de faire tout ce qu'il faut pour leur permettre de revenir à la maison, même si, et c'est vrai, cette libération renforce aussi un certain état d'esprit chez certains, comme quoi seule la force paye et que Israël est à même de libérer encore un certain nombre de tâches, sachant que, comme Smotrich a eu là aussi l'indécence de le dire, Israël n'acceptera pas de faire n'importe quoi, et on ne lui demande pas de faire n'importe quoi, pour obtenir le retour de tous les otages à la maison.
D'accord. Merci d'avoir participé à notre émission, Alain Rosenkier, et puis d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à bientôt. Voilà. Bonne fête de Shavuot à tous et à toutes. C'était Paul Ouzimir, sonne à l'antenne, avec Chronique pour la paix.